Bonjour à tous. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, les quatre premiers versets. Donc, évangile de Luc. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Quatre évangiles ont été écrits et inclus dans les textes retenus pour figurer dans le Nouveau Testament. Ces récits ont été rédigés pour nous apprendre à connaître Jésus, le Fils de Dieu, et de prendre connaissance de ce qu'il a enseigné lors de son ministère terrestre. Luc n'a pas vécu directement dans l'entourage proche de Jésus, tout comme Marc, contrairement à Matthieu et Jean, qui étaient présents parmi les 12 disciples. Marc, c'était un proche de l'apôtre Pierre, et il aurait rédigé son évangile vers les années 50. Au moins 20 ans après la résurrection de Jésus. Matthieu et Luc auraient rédigé vers les années 60, une trentaine d'années après la résurrection de Jésus. Et Jean aurait rédigé encore plus tardivement dans ses vieux jours, vers les années 80. Les uns et les autres, auteurs de ces quatre évangiles, s'adressent à des publics différents pour que l'évangile, le message de Jésus, devienne universel et accessible à toute l'humanité. Le peuple juif d'abord, les Romains, les Grecs, pour se répandre sur toute la terre, génération après génération. On peut légitimement se poser la question pourquoi une rédaction si tardive de ce que Jésus a vécu et enseigné lors de son passage terrestre. En fait, Jésus lui-même a annoncé son retour sur terre. Et pour ceux qui l'avaient côtoyé, il était évident que ce recours était imminent et donc ils ont passé beaucoup de temps à ne pas faire grand-chose, si ce n'est de vivre en communauté et régler les problèmes qui en découlent. Annoncer le salut par grâce, accessible à chaque homme et à chaque femme, conséquence de la mort de Jésus sur la croix, n'est de toute évidence pas suffisant pour faire de nous des disciples de Jésus. En Matthieu 7, le verset 24, Jésus parle. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ou en Luc 11, le verset 28, où Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. » Par conséquent, pour que les paroles de Jésus et sa vie terrestre exemplaire soient accessibles à toutes les générations, in extremis, Matthieu, Marc, Luc et Jean ont pris le temps de décrire la vie de Jésus, de mettre ses enseignements à notre portée sur des documents écrits, plus fiables que la transmission orale. Par la conversion, nous devenons disciples de Jésus. Par conséquent, nous devons nous laisser enseigner et guider dans notre vie quotidienne par notre Maître, le Fils de Dieu venu sur terre il y a 2000 ans. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment Jésus réagissait par rapport à des faits divers dramatiques de son époque. Faits divers, analogues à ceux mis en avant par nos médias jour après jour en 2018. C'est Luc, celui qui dit avoir fait des recherches exactes qui nous rapporte deux drames de la vie quotidienne en Palestine dans les années 30. J'ai essayé de retrouver des articles de presse correspondant à ces faits divers. Mais apparemment, les dernières nouvelles de Palestine ou la Gazette de Jérusalem n'existaient pas. Alors lisons dans Luc 13, les versets 1 à 5. 13, 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Dans ce passage, nous apprenons d'abord que Jésus se tenait au courant de l'actualité. Il ne vivait pas dans un autre monde. Jésus était informé de la profanation du temple par les soldats de Pilate. Et Jésus était informé de l'effondrement accidentel de la tour de Siloé, à l'origine de la mort accidentelle de 18 personnes. Luc évoque très sobrement un acte odieux et révoltant de la part de l'occupant romain. Pilate, je crois qu'on le connaît un peu, c'est le préfet de Judée, mis en place par l'occupant. Par ailleurs, on peut lire sur lui, ça vient de Wikipédia, mais je me permets quand même. Donc, le poste qu'occupe Ponce Pilate, dans une région aux troubles et à l'insécurité permanente, est ingrat et redouté, en même temps qu'il est sans prestige. Pilate s'est maintenu pendant une dizaine d'années, jouant des antagonismes ethniques et opposant les forces autochtones. Les soulèvements populaires auxquels succèdent des provocations romaines parfois inconscientes maintiennent un climat souvent insurrectionnel. À son actif en particulier, Pilate aurait introduit dans Jérusalem des portraits de l'empereur romain qui était élevé au rang de divinité, alors que les Juifs s'interdisaient formellement de faire des images. C'est le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux ou sur la terre. Pilate aurait également ponctionné le trésor du temple pour réaliser des infrastructures, en particulier pour amener de l'eau en plus à Jérusalem. Et comme vous le savez, il n'a rien fait pour éviter la crucifixion de Jésus, alors qu'il ne trouvait rien de grave à lui reprocher. Ponce Pilate était aux commandes de la région pour imposer, avec brutalité s'il le fallait, la paix de Rome, pour lever l'impôt qui servait à financer les fastes du pouvoir central et les guerres aux marges de l'Empire. Pour faire une comparaison avec des choses contemporaines, mais je n'oserais pas. Lever l'impôt et financer la guerre. Et Luc nous raconte très sobrement une opération de maintien de l'ordre qui tourne au bain de sang, à l'intérieur même du temple, lieu sacré pour le peuple juif. Luc nous dit que quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé. On sent bien qu'il y a un gros malaise et que ces personnes aimeraient bien que Jésus prenne position et use de sa puissance pour mettre le pouvoir romain à genoux. Le pouvoir qui ne respecte pas la loi de Moïse et diffuse un culte idolâtre et païen. Mais Jésus répond à côté, si on peut dire. Une question. Les victimes de la bavure policière étaient-ils de plus grands pécheurs que les autres ? Et une réponse, non. Sous-entendu, que leur décès violent n'est pas lié à leur état de plus grands pécheurs que les autres. Et par conséquent, Jésus ramène cet événement odieux et révoltant à un simple fait divers. Une attitude différente de sa part aurait pu mettre le feu aux poudres dans toute la Palestine occupée. Au contraire, Jésus est venu apporter la paix sur terre. À la question « Faut-il payer les impôts pour César ?» il répond simplement en demandant « Qui est la personne dont le portrait apparaît sur la monnaie officielle ?» et il dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Confronté directement à Pilate après son arrestation, Jésus explique avec beaucoup de force et de conviction et d'autorité que son royaume n'est pas de ce monde. Jean 19, verset 36, entre autres. Et s'il l'avait été, ses serviteurs auraient combattu pour lui afin qu'il ne soit pas livré aux Juifs. À Gethsémané, lorsque Pierre dégaine son épée pour éviter l'arrestation, Jésus lui ordonne de ranger son épée. La provocation des soldats de Pilate, aussi scandaleuse et révoltante soit-elle, est simplement remise dans son contexte, un simple fait divers et un rappel « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également ». Jésus enchaîne avec un autre événement dramatique, à l'origine d'une mort accidentelle de 18 personnes lors de l'effondrement de la tour de Siloé. Cette tour se trouvait à un endroit où il y avait un réservoir d'eau, où Jésus avait également envoyé un aveugle pour se laver les yeux afin qu'il recouvre la vue. Il n'est pas impossible que les 18 personnes décédées lors de l'effondrement de la tour étaient justement en train de mettre en œuvre des lavements rituels qui devaient intervenir dans la purification de leur corps. Vous imaginez aujourd'hui le traitement médiatique d'un tel drame. Il y en aurait au moins pour une semaine, entre la recherche des corps sous les gravats, l'interview des proches qui expriment leur douleur et leur souffrance devant les caméras, la contribution des autorités avec une pensée pour les familles et l'assurance de la recherche des responsabilités suivie de l'élaboration de nouvelles règles de sécurité et de nouvelles normes pour la construction, pour que plus jamais cela n'arrive. Revenons à Jésus. C'est lui-même qui mentionne l'événement et le place en fait au même niveau que le drame précédent. Les victimes de l'effondrement de la tour ne sont pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem. Et cette phrase répétée, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Commentaire sombre de la part de Jésus sur des drames de la vie quotidienne. Pour nourrir notre réflexion, j'aborderai deux points. Le premier, c'est qu'en tant que disciples de Jésus, nous pouvons également changer notre compréhension de ce qui se passe au quotidien dans notre société et sur notre planète. Déjà, pour nous rappeler, comme le mentionne l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Néanmoins, le traitement des faits divers par les médias n'est plus le même que du temps de Jésus où l'information circulait essentiellement par voie orale. Mais les faits divers eux-mêmes sont de même nature. Des événements fortuits liés à des troubles sociaux et leur traitement par le pouvoir en place, des catastrophes dites naturelles et des accidents occasionnés par l'interaction humaine. De nos jours, il y a une dramatisation extrême de ces faits divers, avec la mise en scène de la souffrance des proches. Dans quelques cas, il se trouve même que des proches manipulent l'information avec la complaisance des soi-disant professionnels de l'information. Soyons vigilants et critiques lors d'un commentaire à chaud d'un envoyé spécial sur les lieux du drame, qui nous dit en général que pour l'instant on ne sait pas grand-chose, mais qu'il trouvera toujours une personne pour se montrer face aux caméras ou au micro pour donner sa version du drame. Le traitement de l'information actuelle influence globalement l'opinion publique, influence la société. Jusqu'il y a peu, on nous disait que la préoccupation première des citoyens français était l'emploi et le chômage. Depuis quelques mois, la première préoccupation de nos concitoyens dans notre pays serait le risque terroriste et la survenue d'attentats. Une étude montre que les grands consommateurs de télé estiment le risque d'être victime de violences physiques à 52%, 1 sur 2, et les consommateurs occasionnels estiment que à 39%, à peu près 1 sur 3, alors que le risque réel est de moins de 1%. La tendance lourde du traitement médiatique des faits divers est que les opinions personnelles et les émotions prédominent sur les faits objectifs. Tout le contraire de l'attitude de Jésus par rapport aux deux événements. Jésus s'est carrément interdit d'exprimer son opinion personnelle et n'a pas laissé s'exprimer ses émotions. Jésus est notre exemple à suivre. Alors devant les drames du quotidien, posons-nous deux questions. Qu'est-ce qui arrive réellement? Et en quoi cela est-il significatif? Y compris lors de faits divers, montés en épingle s'il y a suspicion d'actes terroristes, alors que, en fin de compte, il ne s'agit que de délits de droit commun par des individus marginalisés par notre société, mal intentionnés et influençables. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est C'est effectivement la réponse de Jésus à ces deux questions qu'il pose lui-même. Les victimes étaient-elles plus grands pécheurs ou éventuellement plus coupables? Non. Deux fois non. Et la phrase qui interpelle juste après. Je vous l'ai dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Sanction? Menace? Évidence? Ou parole sage et apaisante? Par cette phrase, Jésus nous rappelle l'essentiel. Dieu le Père nous tend sa main et c'est à nous d'agir, de décider pour espérer entrer dans sa présence pendant et après notre séjour terrestre. Sur terre, Jésus nous rappelle que notre vie est limitée dans le temps. La fin peut surgir tragiquement et de manière fortuite à notre désir. Il nous dit également qu'une mort tragique n'est pas à interpréter comme un châtiment de notre péché ou de notre culpabilité. Jésus nous rappelle notre humanité, la fragilité de notre corps. Notre corps ne survit pas à une attaque d'une épée romaine, ni à une chute de parpaing lorsque la tour s'écroule. Il nous rappelle également que ce qui nous arrive sur terre, nos souffrances, notre mort même, ne sont pas les conséquences de châtiments divins, dirigés et provoqués par Dieu envers ses créatures. Au final, Jésus nous rappelle que nous sommes invités à nous repentir, à reconnaître que devant Dieu nous sommes tous pécheurs et coupables et que la rédemption ne tient qu'à notre attitude par rapport au plan de Dieu pour chacun d'entre nous, afin que ceux-ci puissent s'engager dans un projet global comme disciples de Jésus pour qu'ensemble nous puissions peser sur la société génération après génération. Les paroles de Jésus sont, au final, apaisantes. Il nous aide à prendre de la distance par rapport aux événements et ces paroles nous invitent à la simplicité et à la sérénité. Repentez-vous et vous verrez le monde changer, en tout cas en ce qui concerne la perception que vous pouvez en avoir. Pour conclure, je vous invite à lire en Luc 12, les versets 22 à 31. Luc 12, versets 22 à 31. Ce sont des paroles de Jésus également. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lycées. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen.